Le travail de Paulo Freire, c'est un modèle important. Dans un moment d'explosion de la formation, d'explosion de l'éducation, il faut faire attention. Si on ne fait pas un travail permanent d'analyse politique, d'analyse épistémologique, de travail sur les problèmes de la connaissance, on risque de travailler dans une direction complètement opposée à nos finalités et à nos objectifs. Alors je pense qu'il faut multiplier à l'infini le travail politique des personnes comme Paulo Freire.
Freire propose une nouvelle conception de la relation pédagogique. Il n'est pas déjà question de considérer l'éducation comme une transmission de contenu de la part de l'éducateur. Et par contre, le dialogue va être le centre du processus de l'éducation et de la formation, bien entendu. Cela signifie que celui qui s'éduque apprend, bien sûr. Ça, on avait dit toujours. Mais maintenant, nous voyons avec Paulo que l'éducateur va apprendre aussi, de la même manière que celui qui apprend l'élève.
Dans le site Saint-André, et je peux dire que c'est pareil dans tous les sites 30 Polanco au Brésil, on a toujours des ouvriers analphabètes ou semi-analphabètes qui ont toujours envie de progresser. Et pour le faire, ils ont mis sur pied à Saint-André un programme, premièrement d'alphabétisation, d'apprentissage de rudiments de physique et de chimique, avec un programme de 400 heures, où on utilisait des moniteurs internes, bénévoles, formés par l'entreprise sur des méthodes pédagogiques. Et pour cette partie-là, on utilisait toujours leur ambiance de travail, leurs, disons, documents de travail, leurs papiers, leurs ordres de service, leur ambiance concrète de travail pour faire soit l'alphabétisation, soit pour améliorer leur niveau d'alphabétisation.
Après l'entreprise, on va essayer de voir, de comprendre ce qu'il en est de la formation des moins qualifiés dans la ville aujourd'hui.
Il y a déjà plusieurs années, on s'est préoccupé de savoir comment on allait s'en sortir par rapport à des chômeurs longue durée qui s'accumulaient dans les statistiques, bien que le chômage commence à réduire à l'époque, et des jeunes qui arrivent sans formation, et je dirais même sans les éléments fondamentaux qui leur permettent d'envisager une insertion dans la société. C'est-à-dire, pour certains, ni lire ni écrire. À partir de là, nous nous sommes préoccupés de savoir comment on pouvait faire en sorte que on ne travaille pas uniquement pour les gens, mais qu'on travaille aussi avec, et faire avec, ça signifie peut-être considérer en face les citoyens autrement, et peut-être réaliser l'éveil d'une nouvelle citoyenneté.
Je suis convaincu que ce que je suis, ce que j'ai été comme éducateur, comme intellectuel, est directement lié à ma façon d'être là dans ma vie quotidienne. Je ne fais pas de distinction. De même que je me donne passionnément, amoureusement, à mon métier d'éducateur, de même que je me consacre avec passion à l'écriture, dans ma bibliothèque, de même, je reste ici le matin, sur ma terrasse, à regarder avec passion cette ville de São Paulo, au loin, calme, apparemment pacifique. Je regarde avec la même passion les fruits qui poussent sur cet arbre. J'aime aimer la vie.
Bien, donc je vous présente Paulo.
Thank you.
Voilà.
Nous avons essayé de, d'une part, répondre à la demande sociale, la demande d'école. C'est un problème extrêmement grave au Brésil. Il y a 8 millions de petits garçons, de petites filles entre 7 et 14 ans qui n'ont pas d'école. Il y a une petite minorité qui va à l'école parce que la classe du travailleur fait pression, mais ensuite ils sont éjectés de l'école. L'école devrait être un espace-temps dans lequel les institutions pédagogiques, à savoir l'école et la famille, et puis de manière plus large, la ville, la cité, œuvreraient ensemble pour une meilleure formation du récipiendaire de l'éducation. Voilà l'expérience de São Paulo.
Quand dans une opération de formation des ouvriers à la chaîne, comme la mission Nouvelle Qualification en mène une depuis plusieurs années, nous essayons de permettre aux ouvriers de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ce qu'ils font, à leurs tâches quotidiennes, de prendre de la distance, de se forger eux-mêmes des méthodes pour appréhender les problèmes. Nous savons très bien que nous pouvons aller très loin, que c'est une forme de libération, mais nous ne pouvons pas aller aussi loin que le souhaite, je pense, Paulo Freire, et que nous le souhaitons nous-mêmes. Alors je voudrais, pour terminer, dire ceci. La démarche de Paulo Freire m'a toujours, je le répète, fasciné. Je pense qu'aujourd'hui, elle est à la fois plus importante que jamais, étant donné les événements. Elle est peut-être plus appliquée, ou essayer d'être appliquée sur le plan local, mais peut-être alors je suis pessimiste, et peut-être parce que j'ai 73 ans, c'est-à-dire un petit peu plus que Paulo, je commence à être un peu usé, mais je me demande dans quelle mesure il n'est pas plus difficile que jamais aujourd'hui d'arriver à appliquer toutes ces choses.
Non, je voudrais dire combien je suis heureux de me retrouver et de me trouver dans l'analyse de Bertrand.
Merci. Et cet après-midi, nous voudrions essayer de démontrer en quoi les travaux de M. Freire et ses théories sur l'éducation trouvent un champ particulier d'application dans la France d'aujourd'hui. Monsieur Mainvielle, sur la socialisation, vous êtes avec Monsieur Laine, que nous avons déjà entendu ce matin. J'ai été frappé en vous écoutant ce matin par une affirmation que vous avez donnée, c'était de dire il faut, quoi qu'il arrive, donner à des jeunes un minimum d'équipement, vous avez employé le terme d'équipement, j'allais dire d'outils d'insertion, c'est-à-dire apprendre, j'allais dire à la limite, savoir lire, compter, etc. Ce sont des opérations de base que tout individu doit faire pour s'insérer professionnellement.
Un certain nombre de courants pédagogiques qui agitent notre milieu ont pu aller à certains moments jusqu'à considérer que, ma foi, apprendre à lire et à écrire, ben, c'était peut-être pas si fondamental que ça. Je trouve que là, on court des risques énormes. Hein. On court des risques énormes, alors ça peut surprendre quelqu'un comme Moïsir, d'entendre ça, mais ça a été dit. C'est-à-dire qu'on a dit, au fond, ce qu'il faut, c'est favoriser l'accès immédiat à la culture urbaine, à la culture technique, il faut s'emparer de tout ça, et puis après, on équipera, on reviendra sur le fondamental. Je crois que ça, c'est un propos de riche. Le riche, c'est celui qui a bénéficié de ce que l'école publique, qui n'est pas forcément populaire, comme on le disait ce matin, mais de l'école de la République, a pu fournir comme équipement. Hein. Et je pense personnellement qu'il est fondamental d'équiper à minima les individus avant de rentrer dans des procédures plus élaborées, plus fines, disons, où on va s'inquiéter de la culture professionnelle, des outils qui sont dans les situations de travail ou autre. Sinon, on risque produire, hein, socialement parlant, des individus qui ne seront pas équipés à minima et qui auront du mal à se défendre dans la société.
Au Brésil, la municipalité s'occupe de l'éducation enfantine et de l'éducation primaire. Mais nous avons un programme d'éducation de jeunes adultes. Ce programme, par biais des contrats passés avec des entités de mouvements populaires, syndicales et sociaux, et entre ces mouvements, ces entités et les secrétariats de l'éducation, offre des ressources financières et techniques nécessaires à l'alphabétisation initiale des jeunes et adultes. Et, par l'observation empirique, nous pouvons constater que non seulement la contribution de l'éducation des bases des jeunes travailleurs et des adultes mise en œuvre de cette façon est décisive pour leurs actions en tant que citoyens, mais que cette éducation contribue également à augmenter la productivité dans le travail.
Deuxième table ronde, donc, pour essayer de voir avec vous, et sous la bienveillante attention de M. Paolo Frère, de voir comment les pouvoirs publics, comment les entreprises répondent actuellement en France au problème des non-qualifiés par des initiatives concrètes. Monsieur Frances, vous n'êtes pas précisément une petite entreprise. Quand on s'appelle Darty, on est un grand de la distribution. Je ne sais pas exactement quel est le nombre de salariés de Darty, vous nous le direz. Mais vous avez senti, vous, le besoin de mener des opérations particulières pour les non-qualifiés. Alors pourquoi ?
Mais écoutez, avant d'être une grande entreprise, on est une petite entreprise, puisqu'une grande entreprise est une ancienne petite entreprise. Pourquoi a-t-on voulu aider d'autres entrepreneurs dans un milieu social à travers des gens en difficulté? On peut se poser la question par intérêt, parce que théoriquement, maintenant on dit ici et là que le rôle de l'entreprise est économique. Et on a l'impression que son rôle n'est qu'économique. Il n'est jamais social, il n'est jamais humain, il n'est qu'économique. Et parfois des entreprises, et nous ne sommes pas les seuls heureusement, se disent finalement ce qui est moral, social, peut également devenir économique et l'économique doit s'en soucier. Dans la mesure où des personnes sont venues nous voir, il y a de cela assez longtemps déjà à Strasbourg, en disant on a une idée pour aider des jeunes en difficulté qui consisterait à reconditionner des machines à laver de linge ou des frigos, mais pour ce faire il nous faudrait de la matière première usagée, donc pourriez-vous nous aider en nous donnant les produits que vous reprenez chez les clients à créer des ateliers, à reconditionner ces produits, à les revendre d'occasion? On a répondu que ça ne posait pas de difficultés majeures et on l'a fait.
Puisque j'ai quand même l'occasion de voir M. Paolo Frère, je vais rendre à César ce qui est à César. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que lorsque nous avons lancé la politique, disons, qui est devenue la politique de la ville, et que nous avons créé la Commission nationale des quartiers, eh bien, nous avons choisi, justement, ce terme de développement social, et c'était en référence, en fait, à votre action. Alors, je voulais vous le dire ce soir, parce que nous avons choisi ce terme, parce que, comme vous, en fait, nous avons souhaité mettre au centre, disons, de cette politique, à la fois l'homme, sa dignité, la justice et j'oserais dire un peu de combat aussi. Que nous constatons tous les jours que nous ne sommes pas adaptés à ce qui se passe et aux urgences. Nous sommes trop bureaucratiques, nous sommes trop lents, il faudrait mettre encore plus d'argent. Et c'est ça, si vous voulez, en fait, le défi en fait, hein, auquel nous sommes confrontés. C'est qu'en réalité, par rapport au processus d'exclusion, et nous produisons aussi de l'exclusion, c'est évident, nous ne sommes pas irénique en fait, hein. Mais il faut tenter justement d'arriver à ce que on puisse réduire peut-être en fait ces problèmes et de façon à ce que notre entreprise participe comme à côté de l'État ou d'autres entreprises à ce défi. Non pas de façon charitable, non pas de façon en tant que mécène ou de façon altruiste, mais simplement parce que nous savons, alors nous le savons, qu'un développement économique ne peut pas se développer, ne peut pas exister même sur un tissu social déchiré. Donc, de toute façon, ou nous réussirons ensemble, ou de toute façon, nous chuterons ensemble. Ça, c'est clair aussi, et au moins, c'est aussi cela qui nous fait agir.
J'écoutais les intervenants tout à l'heure, j'ai écouté les analyses, les objectifs fondamentaux, tout cela tournait autour du concept d'insertion, le travail, la participation, etc. Et cette discussion me rappelait une thèse ancienne que je soutenais dans les années 50.
Cujos retalhos eu aproveitei posteriormente num livro.
Thèse dont j'ai repris certaines idées dans un livre qui a été publié à Paris par la suite.
Pratique
et qui s'appelait
L'éducation pratique de la liberté.
L'éducation pratique de la liberté. Je suis vraiment très heureux d'entendre des hommes publics français des hommes de grandes responsabilités dans leur société, de grandes responsabilités politiques, de grandes responsabilités pédagogiques, qui défendent un tel concept qui devient, qui se généralise,